Alors, nous accueillons aujourd'hui Philippe Roger. Je ne sais pas très bien comment je dois le présenter, comme ami, comme camarade, comme compère, comme complice, comme copain, je ne sais pas. Puisque nous nous connaissons depuis très longtemps, je crois que nous nous connaissons depuis 1970, ce qui veut dire que c'est assez ancien. Et que nous ne sommes pas devenus ennemis, donc c'est une bonne chose. Ça veut dire que les amitiés ne se transforment pas toujours en inimitiés comme dans Illusions perdues. Nous n'avons pas perdu nos illusions. C'est ça que ça veut dire. Sans doute que nous avons cette largesse que Barbé d'Aurevilly reconnaissait au compagnonnage. Philippe Roger est donc directeur de recherche émérite au CNRS, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et professeur à l'Université de Virginie. Il a écrit de nombreux livres, dont je citerai le premier, sur lequel il travaillait à l'époque où nous nous sommes connus, sur Sade, La philosophie dans le pressoir, publié dans les années 1970. Son livre sur Roland Barthes, Roland Barthes roman, publié dans les années 1980. Et son livre sur l'ennemi américain, généalogie de l'anti-américanisme français. Peut-être qu'il faudrait plutôt parler de l'inverse aujourd'hui, publié en 2002. J'ajouterai que Philippe Roger est aussi le directeur de la revue Critique depuis une vingtaine d'années, une revue où nous avons une règle qui est d'interdire les articles sur les membres du conseil de rédaction. Ce qui fait que je suis membre du conseil de rédaction de Critique depuis, je crois, 1977, ça fait 40 ans cette année, et qu'il n'y a jamais eu le moindre article sur aucun de mes livres dans la revue Critique. C'est une règle dure, mais c'est une règle qui évite le puf, comme disait Stendhal tout à l'heure. Je ne sais pas très bien comment traduire le puf. J'ai vu le terme employé dans les différents textes que j'ai lus pour préparer ce cours, la mousse. On fait mousser, comme on dirait aujourd'hui. Le puf, c'est la mousse. Autrement dit, nous sommes d'une extrême sévérité dans la revue Critique quand je compare à ce qui s'est passé dans ces journaux que j'évoque dans ce cours et dans ces revues où la camaraderie de cette canaille écrivante, enfin, nous ne sommes pas une canaille, c'est ça que ça veut dire. Et Philippe Roger a modifié le titre de son propos qui est maintenant « De Voltaire à Rivarol, escarmouché ou guerroyé ». À toi.
Merci Antoine. Et effectivement, nous ne nous prônons pas les uns les autres, mais je suis en tout cas très heureux d'être ici, d'y revenir même, puisque c'est la seconde fois que tu me fais l'amitié de m'inviter dans ton cours. Et oui, j'ai changé mon titre. Je dirais que je l'ai changé pour deux raisons. Je ne dirais pas que j'ai été visité par le spectre de Voltaire qui m'a reproché d'être absent sur un sujet où il semble indispensable, celui des polémiques et des combats littéraires dans un siècle qu'il a dominé de la tête et des épaules, mais aussi parce que j'ai, en t'entendant et en comprenant mieux l'orientation que tu voulais donner au cours, j'ai eu envie de m'insérer davantage dans cette problématique. Et donc, il sera quand même question de Rivarol, mais plutôt comme le terminus vers lequel je vais me diriger, en passant par Voltaire, et après peut-être quelques considération sur la différence que je vois très grande, en fait, entre les images que tu as commencé de faire défiler pour nous, qui sont celles du XIXe siècle et celles du XVIIIe siècle. Je crois que le XVIIIe siècle est généralement perçu comme un âge d'affrontement idéologique et de combat plus généralement. On parle souvent des combats des Lumières. Et dans ces combats, bien sûr, ce sont les littérateurs qui sont en première ligne. C'est une idée reçue, une vision convenue, qui n'est pas fausse, mais qui doit peut-être beaucoup à la lecture rétrospective depuis l'événement révolutionnaire qui aurait préparé, sinon provoqué, ce qu'on appelle à l'époque la fermentation des esprits, eux-mêmes agités par cette production littéraire contentieuse. Mais bien évidemment, le XVIIIe siècle n'a pas le monopole de la polémique entre gens de lettres et il y a une phrase de Furtière date donc du XVIIe siècle, de 1685 exactement, qui me plaît, que je pourrais mettre ici en épigraphe. C'est une phrase où Furtière dit « Les auteurs sont en possession immémoriale d'écrire les uns contre les autres. » Fin de citation. Donc c'est un droit imprescriptible des auteurs que d'écrire les uns contre les autres. Je voudrais donc, non pas renverser, mais nuancer cette vision reçue en ajoutant immédiatement que le XVIIIe siècle, non seulement n'a pas ce monopole, mais qu'il faut souligner qu'il n'a pas cessé de dénoncer les genres canoniques de la polémique. Je veux dire la satire et le libelle, sans cesser, bien sûr, de les pratiquer. La satire est régulièrement condamnée au XVIIIe siècle. Elle est condamnée comme une attaque ad hominem, qui n'a pas de valeur corrective ni moralisatrice. Et le libelle, a fortiori, bien sûr, comme une production ignoble, diffamatoire. La controverse elle-même, même si l'encyclopédie, dans son article « Controverse », nous fait la surprise d'en prendre la défense, mais c'est en fait pour ne pas en laisser le monopole aux théologiens. La controverse est un mot péjoratif au XVIIIe siècle et dans le camp des Lumières. Le mot controversiste est également un de ces désignants négatifs d'un personnage presque aussi décrié que le libelliste ou l'écrivain satirique. Voltaire, que Ernest Renan plus tard jugera, je cite Renan, trop controversiste pour être bon historien, fin de citation, ne cesse de le répéter, je me donne bien de garde d'être controversiste. C'est ici dans l'article athée du dictionnaire philosophique, et comme s'il avait anticipé sur la critique de Renan, il écrit aussi, cette fois à la duchesse de Saxe-Gotha, dans une lettre de 1754, quel insensé voudrait que j'eusse fait le controversiste au lieu d'écrire en historien. Quelle prémonition des reproches que Renan lui adressera plus tard. Donc gardons en mémoire ce premier caveat, cette première précaution mentale. Si l'âge des Lumières est bien en effet celui de nombreux combats, les plus célèbres des combattants ne revendiquent pas volontiers, en tout cas pas publiquement, pas dans leurs lettres les plus ostensibles, la qualité de belligérant. Voltaire, sous ses différents avatars, vous savez qu'il a signé sous de très nombreux pseudonymes, l'un de mes préférés est celui de l'abbé Bazin, se présente toujours comme bonhomme, en un mot ou deux mots d'ailleurs, comme un homme de paix qui fuit les querelles, mais qui, bien sûr, est parfois contraint de se défendre. Se présenter en quelque sorte comme des malgré-nous de la polémique fait partie de la stratégie polémique des écrivains des Lumières. Ce qui caractérise le XVIIIe siècle, me semble-t-il, c'est le fort décalage entre cette pratique littéraire volontiers polémique, et cet imaginaire bonhomme, bénin, pacifié, que promeuvent avec un succès certain la plupart des propagateurs des idées nouvelles, alors qu'eux-mêmes ne reculent pas, on le sait, devant la polémique, ils ne reculent pas à l'occasion devant la satire. Le très beau texte de Diderot, Le neveu de Rameau, porte le titre de satire, même si Diderot fait référence ici à la satura, donc au pot pourri, mais contient aussi des éléments satiriques. Je vous renvoie ici au texte de Diderot et aux anecdotes sur le financier Bertin qui n'ont rien à envier à celles que nous venons d'apprendre sur M. Trump. D'autres pratiquent non moins volontiers le libelle, et Voltaire lui-même en a plus d'un à son actif, à commencer par le sentiment des citoyens qui portent de graves accusations contre Rousseau. Seconde remarque préliminaire, elle portera sur le fossé qui, je pense, sépare le XIXe siècle, tel qu'a commencé à l'évoquer Antoine au cours des séances précédentes et au cours de celle-ci, et le XVIIIe siècle. Ce sont des imaginaires assez différents qui se déploient dans l'un puis l'autre siècle autour de l'écrivain, de ce qu'on pourrait appeler l'écrivain combattant. J'ajoute d'ailleurs que le titre même du cours, la littérature comme sport de combat, aurait bien sûr été une énigme pour un homme ou une femme du XVIIIe siècle, non seulement parce que le mot « littérature » n'a pas encore le sens que nous lui prêtons, il l'acquiert en gros au tournant de 1800, mais c'est surtout le mot, l'expression « sport de combat » qui aurait suscité d'autant plus de perplexité que le mot « sport » lui-même, bien sûr, était encore inconnu en français. Dosa date de 1828, son introduction en France. Encore est-il longtemps mal compris. Je trouve intéressant que Littré, aussi tard que 1876, note que la figure du sportsman est confondue avec celle cavalier. Je cite Littré, qui commence par définir sport par tout exercice en plein air, et qui ajoute « En France, on confond souvent le sport et le turf ». Et je pense qu'il faudrait prononcer « turf », comme on dit « turfiste ». Mais le turf, ajoute Littré, n'est qu'une espèce de sport. Alors, si cette confusion soulignée par Littré entre sport et turf est réelle, l'idée de sport de combat n'aurait donc pas été si évidente, même au XIXe siècle, et a fortiori, le syntagme n'aurait pas offert de signification nette pour les hommes ou femmes du XVIIIe siècle. Toujours à propos de sport de combat, mais je pense qu'Antoine l'a peut-être dit, ou en tout cas, je suis persuadé qu'il le dira, rappelons que la boxe qui se répand dès le XVIIIe siècle en Angleterre, Antoine nous a montré la semaine dernière une très savoureuse caricature du chevalier de Saint-Georges boxant un esclavagiste. Cette boxe, donc, n'arrive en France que 200 ans plus tard, à l'aube du XXe siècle, puisque si j'en crois Wikipédia, c'est la seule fois que je citerai Wikipédia, mais le premier combat est organisé Salvagram en 1903. Il n'est donc pas question de sport au XVIIIe en France, ni dans le vocabulaire, ni dans les représentations, et ma foi, guère plus dans les pratiques. Et ici, je n'ouvre qu'une très brève parenthèse pour dire que les historiens de l'éducation nous apprennent que les exercices physiques que les jésuites s'étaient efforcés d'introduire dans le cursus des études, ils tiennent de moins en moins de place au XVIIIe siècle, sont en régression, phénomène que certains de ces mêmes historiens attribuent à l'influence janséniste. Je referme cette courte parenthèse. Ce qui tient lieu du sport ou des sports, c'est un ensemble de jeux et d'exercices. Et on peut rappeler ici, au passage, le sens du vieux mot français « déport », qui s'écrit « desport », D-E-S-P-O-R-T, qui est l'origine du mot anglais « sport », et que l'on peut entendre comme divertissement, plaisir physique, mais aussi plaisir de l'esprit. Et Jean Nicot, dans son dictionnaire de 1606, lui donne ce très joli synonyme, les ébats au pluriel. En guise de sport, donc, il y aurait au XVIIIe siècle quelques manières de s'ébattre. Il y a des jeux, la soule, que vous connaissez certainement, qui est une sorte d'ancêtre du rugby, dit-on, le jeu de barre que tout le monde a joué, le cricket, la crosse, qui n'existe plus, mais qui existe toujours en Amérique du Nord, sous le nom de lacrosse, et surtout, bien sûr, le jeu de paume. À quoi on ajoutera le billard, les quilles, le tir à l'arc. Et puis, il y a d'autre part les exercices liés à l'éducation noble, le manège, qui a un sens très général à l'époque, couvrant tout ce qui concerne les chevaux. Et le manège et l'équitation donnent lieu à une riche métaphorisation, en particulier dans le roman mondain où Libertin, bien manégé, s'emploie pour désigner un homme qui est prompt à exécuter tours et détours, quelqu'un de bien dressé et du coup d'habile. Mais ces exercices de maîtrise et d'adresse ne connotent pas directement la compétition ni l'affrontement. On ne rencontrera guère dans ce registre que la métaphore ancienne de la joute ou du tournoi, qui, elle, renvoie à une pratique désormais abandonnée. Vous le savez certainement, les joutes à cheval ont disparu en France après la tragédie de la mort accidentelle de Henri II en 1559 au cours d'un tournoi qui avait lieu rue Saint-Antoine. Et l'archaïsme même de ces références confère à leur emploi métaphorique une valeur généralement humoristique, voire franchement ironique. Reste l'escrime, bien sûr, qui n'est pas un sport ni un jeu. C'est, dit l'encyclopédie, celle de Diderot et d'Alembert, qui consacre un long article très technique à l'escrime, un art et l'un des exercices qu'on apprend dans les académies. Alors, je ne cherche pas à établir ici une sorte de petite encyclopédie des jeux et bas au XVIIIe siècle. Je voulais simplement explorer ce qu'on pourrait appeler le matériau de l'imaginaire, un peu comme Freud parle du matériau du rêve, puisqu'il faut bien, avant d'examiner les images de l'écrivain inscrites dans l'imaginaire du XVIIIe siècle, se demander d'abord ce qui était, si j'ose dire, en stock, ce qui s'offrait à la métaphorisation. Cette métaphorisation est donc assez différente, me semble-t-il, de celle du XIXe siècle. Et je tirerai de cette énumération de quelques jeux et exercices trois très brèves remarques. La première, c'est que rien ne subsiste au XVIIIe siècle des sports ou jeux par excellence du monde grec ou gréco-latin. En particulier, l'exercice le plus pratiqué de la palestre grecque, la lutte, palais, qui donne son nom à la palestre, qui se pratiquait soit en position debout, soit à terre, et qui consistait, dans tous les cas, à immobiliser l'adversaire sur le dos, les deux épaules touchant terre. Rien ne subsiste non plus des courses, des autres disciplines que nous disons olympiques. Il faudra nous en souvenir, car quand nous voyons apparaître un athlète, je reviens au mot autour duquel Antoine nous a fait voyager déjà avec plaisir la semaine dernière et encore aujourd'hui, quand nous rencontrerons un athlète métaphorique pour qualifier l'écrivain, il faudra nous souvenir qu'il s'agit d'un athlète antique et regarder de près l'usage qui est fait de la métaphore. Deuxième brève remarque, les jeux, soule, barre, cricket, crosse, paume, et même le billard, les quilles et le tir à l'arc sont des jeux d'équipe ou pratiqués la plupart du temps collectivement. Et en tant que tels, s'ils peuvent se prêter à des usages métaphoriques, ils ne peuvent pas affecter la posture solitaire, voire individualiste, de l'écrivain en compétition personnelle avec un autre écrivain. Troisième remarque, reste l'escrime, seul en lice, si j'ose dire, pour fournir l'image d'un affrontement qui serait de l'ordre du duel. Elle est remarquablement peu sollicitée au XVIIIe siècle et j'essaierai de montrer quelles sont les images guerrières ou moins individualisées qui lui sont préférées. Mais ce qu'a dit tout à l'heure Antoine et une citation qu'il a faite sur le besoin d'avoir un ennemi, car c'est l'ennemi qui permet de s'assurer un début de notoriété, c'est donc le duel. Ça peut être le duel réel ou la présence d'un ennemi qui va devenir un duelliste littéraire. Bien, le duel entre écrivains n'est pas pratiqué au XVIIIe siècle. Il n'est pas pratiqué pour une raison majeure, c'est que la plupart des écrivains n'ont pas droit au duel. Il faut être de qualité pour être duelliste, mais aussi par un refus que je crois beaucoup plus profond de ce type de rapport. Et je me demandais, en écoutant Antoine à l'instant, mais effectivement, qu'est-ce qui tient lieu d'accréditation ? Qu'est-ce qui remplace le duel ou l'attaque par un ennemi déjà notoire ? Mais la réponse est simple, parce que tout le monde la donne au XVIIIe siècle. Ce qui remplace ce début de notoriété, c'est l'emprisonnement, c'est la Bastille. Il y a un texte célèbre dans les mémoires de Morellet, ancien camarade ou compagnon, disciple de Voltaire, et qui, une fois mis à la Bastille, se félicite d'un séjour qu'il sait devoir être court en disant « J'étais à la Bastille, j'étais sûr que la renommée viendrait ». Il y a donc une sorte d'optimisme dans le fait d'être embastillé. Ce n'est pas le cas pour ceux qui, hélas, comme le marquis de Sade, y passent une grande partie de sa vie. Voilà donc par quoi je voulais commencer. Mais au-delà de cet imagier des réalia qui s'offre aux constructions métaphoriques, il faut peut-être faire intervenir quelques autres remarques, des considérations d'ordre plus large cette fois, sur ce qui a pu, d'un siècle à l'autre, faire se transformer les imaginaires. Bon, il y a deux considérations massives que je rappelle, je dirais, pour mémoire. Balzac les a parfaitement identifiées dans « Illusion perdue » et Antoine les a déjà commentées. C'est d'une part la transformation du statut économique et social de l'écrivain, qui est livré à la loi du marché, Illusion perdue le montre surabondamment, et dont la survie symbolique et la survie tout court, après tout, on risque de mourir de faim dans le Paris de Balzac quand on essaie d'écrire, cette survie, donc, ou cette double survie, dépend de la bonne négociation, du bon écoulement de sa production. Dépend donc aussi de ce qu'on pourrait appeler, comme Musil le fera plus tard, la bourse des valeurs littéraires. Au plus haut de la cote, vous vous en souvenez, le roman historique, au plus bas, la poésie à laquelle s'obstine le pauvre Lucien avant de composer, c'est le cas de le dire, mais un peu tard, son Archer de Charles VII, imité de Walter Scott. Bon. La garantie, très relative encore, d'un revenu via les droits d'auteur, et plus encore la possibilité de publier dans la presse, ont fait de ce qu'on appelait au XVIIIe siècle déjà la carrière des lettres, un véritable métier. Écrire, sans doute, reste une vocation, c'est du moins ce que la plupart des écrivains veulent croire, mais c'est surtout désormais une profession. Ce nouveau paysage économico-social est celui d'un type de concurrence que n'a pas connu, en tout cas pas dans les mêmes termes, le XVIIIe siècle. Il favorise la métaphore, pourrait-on dire, pré-darwinienne, d'une survie du mieux adapté, survival of the fittest, et contribue à valoriser les images qui ont été évoquées la semaine dernière d'une puissance créative qui s'incarne dans un physique athlétique. Le paysage est très différent au XVIIIe siècle. Une sorte d'opprobre s'attache jusqu'à la veille de la Révolution au monnayage des productions de l'esprit. L'autonomie financière, que ce soit richesse ou honnête aisance, reste implicitement pensée comme des réquisites moraux pour s'adonner aux arts libéraux, et donc à la littérature. C'est dire aussi, et pour filer un peu plus la métaphore, que, sportif ou non, la plupart de ceux qui écrivent courent alors en amateur, et concourent en amateur. Un système de pension, vous le savez, royal et autres, assez généreusement distribué, corrige en partie la difficulté qu'ont les auteurs à être rémunérés de leurs travaux, sous le double effet, négatif bien sûr, de l'absence d'une législation du droit d'auteur jusqu'au début du XIXe siècle et surtout de la contrefaçon systématique des livres. À cet égard, la compétition entre gens de lettres au XVIIIe siècle est plutôt une lutte pour les faveurs que peuvent octroyer le roi, les grands, les gratifications, les pensions, les bénéfices ecclésiastiques, comme pour l'abbé Prévost à la fin de sa vie, la direction d'un journal éventuellement, et puis une charge assez convoitée, celle de censeur, qui est assez lucrative. Les qualités requises pour tirer son épingle du jeu, le talent et la notoriété, bien sûr, mais aussi la souplesse, l'entre-gens, sont celles du diplomate, voire du courtisan, plus que celles du pugiliste. La seconde mutation massive, je peux passer rapidement sur elle, il en a également été question, et Lucien Chardon, ou Lucien de Rubempré, en est une belle illustration, là encore, puis lorsqu'il est pris entre les libéraux et les monarchistes, la politique partisane, en un sens moderne du mot « parti », n'avait pas cours avant la Révolution, dans la sphère littéraire. Les querelles littéraires du XVIIIe siècle sont bien entendu souvent aussi des affrontements idéologiques larvés, mais ils sont beaucoup plus tributaires de réseaux de solidarité, d'amitié, peut-être de camaraderie, d'influence, que de positionnements proprement politiques qui, en aucun cas, ne pourraient trouver des formes d'expression autres que très limitées dans cette logosphère très contrôlée qui est celle des publications autorisées, licites, sous l'Ancien Régime. Ce n'est pas à dire, bien sûr, que le XVIIIe siècle ignore les conflits idéologiquement motivés, mais ces conflits ne venant pas s'inscrire dans une grille politique, les positions apparaissent aux acteurs eux-mêmes moins figées, plus susceptibles de compromis, de rapprochement, et les animosités personnelles l'emportent en général sur les haines de parti. D'autant que les écrivains, jusqu'à la veille de la Révolution, restent en général attachés à une vision de plus en plus nostalgique, il est vrai, d'une république des lettres dans laquelle la communauté des intérêts partagés par les écrivains l'emporterait sur leur division. Je viens de dire jusqu'à la veille de la Révolution, je voudrais en donner un tout petit exemple qui est même postérieur à la Révolution, c'est celui de Louis-Sébastien Mercier, qui a déjà été cité. Louis-Sébastien Mercier, rescapé de la Terreur, emprisonné pour ses sympathies girondines, et qui déplore dans son Nouveau Paris, écrit donc au lendemain de Thermidor, que les hommes de lettres, je le cite, n'aient pas fait le faisceau. Fait le faisceau, c'est-à-dire réuni leurs forces, et que par leur union, ils n'aient pas réussi à empêcher la catastrophe de la Terreur, tout en sauvant la République et la Révolution. À cette espérance de Mercier après Thermidor, fut-elle une espérance déçue, on mesure combien le mythe positif, celui-là, d'une corporation littéraire solidaire, l'emporte encore au XVIIIe siècle, soit sur le constat d'une lutte de tous contre tous, soit sur la dénonciation d'une corporation négative, la camaraderie dont vient de nous parler Antoine. À côté de ces deux mutations massives que je n'ai fait que rappeler, j'aimerais avancer très rapidement, plutôt en les énumérant qu'en m'y attardant, pour ne pas éterniser ce préambule, d'autres facteurs importants, me semble-t-il, qui aident à rendre compte du changement de régime symbolique dévolu à l'écriture littéraire entre le XVIIIe et le XIXe siècle. Premier changement, que je crois très important, les métaphores combattantes privilégiées par le XIXe siècle me semblent relever d'un imaginaire héroïque relancé, un imaginaire guerrier, en tout cas, relancé donc par la gloire militaire de la Révolution et de l'Empire, combinée à ce pré-darwinisme social que j'évoquais à l'instant. S'agissant du XVIIIe siècle, il convient de rappeler qu'en dépit d'un état de guerre quasi permanent dans l'Europe de l'époque, en dépit du prestige qui continue indubitablement à s'attacher aux grands faits d'armes, et l'enthousiasme suscité par la victoire de Fontenoy, par exemple, eh bien, il faut dire que l'héroïsme est en butte à une critique et à une suspicion systématique, non seulement de la part des plus radicaux des philosophes humanitaires et ou utilitaristes, mais même de la part de penseurs a priori plus pondérés. Je citerai un seul exemple, celui de Montesquieu dans le Spicilège, les pensées non publiées de son vivant, et d'autant plus révélatrice. J'aime beaucoup cette note humoristique pleine d'humour de Montesquieu. Les premiers héros étaient bienfaisants. Ils protégeaient les voyageurs, purgeaient la terre de monstres, entreprenaient des ouvrages utiles. Tels furent Hercule et Thésée. Les premiers héros, ce sont en somme ceux que les Lumières mériteraient d'avoir. Dans la suite, ils furent seulement courageux, remarquez le seulement, comme Achille, Ajax, Diomède. Après cela, ils furent de grands conquérants, comme Philippe et Alexandre de Macédoine. Enfin, ils devinrent amoureux, comme ceux des romans, et cette chute merveilleuse, à présent, je ne sais ce qu'ils sont. Dégringolade du héros, donc, ou plutôt effacement de sa figure, qui s'estompe, qui devient indiscernable, je ne sais ce qu'ils sont. Corollaire de cette tendance qui court à travers tout le siècle et qui aboutira à la substitution capitale du grand homme, dont Jean-Claude Bonnet a étudié la naissance dans son beau livre « Naissance du Panthéon », la substitution du grand homme au héros. J'insiste sur le mot « grand homme » parce que nous allons retrouver le syntagme pour finir. L'exaltation face à la force physique de la puissance de l'esprit et du verbe. Et il faut dire que c'est à vrai dire une tradition très forte, et pardon de rappeler ici une chose si connue, mais très forte depuis la Renaissance, et que les Lumières ici réactivent, c'est la tradition qui s'attache à la figure de l'Hercule gaulois. Face à l'Hercule musculeux, si j'ose dire, il y a depuis la Renaissance, en gloire, l'Hercule gaulois, celui qui enchaîne les hommes par son éloquence. Cette figure promue par l'humanisme et dont s'empare la monarchie française sous les Valois déjà, renforcée par les lectures chrétiennes qui lisent Hercule comme une figure allégorique, comme l'homme placé entre la voie du bien et celle du mal, eh bien cette nouvelle figure, cette figure renouvelée, renverse en faveur des clercs, des gens de pensée, des gens de plume, des gens de discours, le prestige qui s'attachait à la seule force dans le mythe gréco-latin, du moins tel que le lisait la plupart des mythologues. Grâce à Lucien de Samosate, qui en a fixé l'image dans un texte qui est sans cesse cité et recité, l'Hercule gaulois, qu'on dit aussi libyen, qu'on dit d'origine égyptienne, donc qui a une autre origine que l'Hercule des Grecs et des Romains, affirme la supériorité de l'intelligence et de la moralité sur la force physique. Ce thème alimente pendant trois siècles, du XVIe au XVIIIe siècle en France, les apologies des lettres. Et pour revenir au XVIIIe siècle, Bayle, par exemple, le reprend avec cette fois une référence à Isocrate pour souligner que même l'Hercule gréco-latin était lui aussi un intellectuel, pardonnez-moi l'anachronisme. Il était musagète, il était protecteur des muses et intimement lié à elles. On comprend donc que l'idée d'un écrivain herculéen, quand elle intervient au XVIIIe siècle, puisse avoir un tout autre sens que lorsque Rodin donne une musculature taurine, si j'ose dire, à un Balzac acéphale. Comme l'a démontré l'historienne Lynn Hunt dans un article resté célèbre, c'est la Révolution. C'est plus précisément encore la phase montagnarde de la Révolution française qui a rétabli dans ses droits et dans son prestige un Hercule viril et musculeux. Et Lynn Hunt montre de manière très convaincante que cet Hercule viril, avec une énorme massue, est venu remplacer, dans l'iconographie officielle, les figures jusque-là féminines que la Révolution avait introduites entre 89 et 92, figures féminines de la liberté, figures féminines de la République. Au-delà même de cette réhabilitation révolutionnaire d'un Hercule tueur de monstres, si vous voulez, c'est aussi autour de la Révolution, c'est autour de ces tribuns tout en mufles et en crinières, et il faudrait ici évoquer les figures de Mirabeau, bien sûr, et de Danton, qu'un imaginaire se formera, dont un XIXe siècle qui se soucie assez peu de le reconnaître comme son héritage, bénéficiera pourtant. Et puisque j'en suis arrivé à cette image de la force physique et virile mise en avant par la radicalisation révolutionnaire et reprise par l'imaginaire littéraire du XIXe siècle sous une autre forme, permettez-moi de compléter ce tableau d'une dernière notation rapide. Une autre raison de l'éloignement du XVIIIe siècle pour les métaphorisations guerrières, viriles et violentes du métier d'écrivain tient sans aucun doute à la place importante qu'ont les femmes dans la vie littéraire. Non pas seulement comme lectrice ou salonnière, comme on le dit trop souvent, mais aussi comme auteur, et pas seulement comme romancière. On peut penser par exemple à la très grande helléniste que fut Madame Dacier, qui fut au centre de ce qu'on a appelé la querelle d'Homère. Parmi les premiers professionnels de la littérature qui apparaissent à la fin du XVIIIe siècle, eh bien, on compte plusieurs femmes, comme Madame Riccoboni ou Madame de Genlis. Le XIXe siècle est à bien des égards en retrait, à quelques scandaleuses exceptions près. Je dis scandaleuses avec affection, puisque je pense à ma compatriote George Sand. C'est ce retrait qui, je pense, contribue à favoriser l'imaginaire, l'essor de cet imaginaire que j'appellerais sans barguigner, comme on disait au XVIIIe siècle, un imaginaire macho de la prouesse littéraire. Mais alors, me direz-vous, d'où nous viennent ces images que nous entretenons encore aujourd'hui des écrivains des Lumières comme de penseurs combattants, de philosophes pugnaces, de ferrailleurs infatigables? Mais je crois que, justement, elles nous viennent du XIXe siècle. Elles font partie de cette imagerie dont nous avons déjà recueilli, grâce à Antoine, de beaux éléments. Cette imagerie forgée par les littérateurs eux-mêmes et qui passe, à la fin du siècle, aux universitaires, selon le processus que Valérie décrit par le mot « tout finit en Sorbonne ». J'emprunte le premier exemple, qui sera peut-être le seul car je dois accélérer, à Ferdinand Gohain. Je triche un peu ici car Ferdinand Gohain publie en 1903, mais c'est encore le XIXe siècle, les transformations de la langue française pendant la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Voici ce qu'écrit Ferdinand Gohain. « L'esprit domine au XVIIIe siècle dans tous les écrits. » Et voilà ce qui nous intéresse. « Voltaire fait de l'esprit une arme légère et fine comme l'acier. Rousseau la manie avec la vigueur d'un athlète. Beaumarchais avec l'audace insolente du ferrailleur qui est sûr de vaincre et se réjouit tout le premier de ses beaux coups d'épée. » Ce qui est très remarquable dans cette description, je ne commenterai pas, elle est parlante, c'est la manière dont Gohain plaque sur le XVIIIe siècle, qui n'en fait pas usage, toute une série de métaphores dont Antoine nous a montré l'émergence parmi les littérateurs des années 1820-1840. J'aimerais commenter ferrailler, mais je crois que je suis obligé d'accélérer le rythme. Ferrailler, dont le sens au XVIIIe siècle est ambigu, puisqu'il peut vouloir dire à la fois « tirer mal à l'épée », c'est-à-dire contre les principes, mais à peine moins péjorativement, chercher la bataille, se battre à l'épée comme le font les spadassins. Voltaire en fait un usage assez proche et auto-ironique lorsqu'il annonce à Frédéric de Prusse, prince royal, en 1738, qu'il va se jeter dans la nuit de la métaphysique. Que peut-on faire dans la nuit de la métaphysique sinon ferrailler dans le noir? Et Voltaire se compare à Ajax dans Homère, dans l'Iliade, ferraillant dans le noir, dans l'obscurité de la métaphysique. Nous pourrions, avant de quitter le XIXe siècle, jeter encore un œil sur un extrait d'un livre paru en 1840 et qui est intéressant par la déformation même qu'il opère sur le XVIIIe siècle. C'est un livre écrit par Charles-Marie de Fellès. Le nom s'écrit tantôt avec un S, tantôt TZ, peu importe, dont il faudrait ici dire rapidement quelques mots. Il a été élevé au collège Sainte-Barbe avant la Révolution. Il a été ordonné prêtre pendant la Révolution par un prêtre réfractaire. Il a été arrêté, condamné au terrible ponton. Il a survécu à cette épreuve et il va devenir un personnage important à la Restauration, inspecteur de l'Académie de Paris et académicien. Dans cet ouvrage, il reprend une des plus célèbres polémiques, une des plus chaudes du XVIIIe siècle, plutôt une double polémique qui a éclaté autour de deux pièces de Charles Palissot. Charles Palissot a en effet fait jouer d'abord en 1755 une pièce intitulée « Le cercle » qui attaquait violemment les philosophes et en particulier Rousseau. On voyait Rousseau arrivant sur scène à quatre pattes et sortant de sa poche une laitue qu'il commençait à brouter devant le public. En 1760, Palissot récidive avec une pièce intitulée très clairement « Les philosophes », pièce qui s'en prend cette fois surtout à Diderot sous le nom de Dortidius, qui est présenté comme une sorte de scélérat. Tollé parmi les philosophes et les défenseurs de l'encyclopédie, qui demande l'interdiction de la pièce. Voilà la manière dont Fellès rend compte de cet épisode. Palissot n'abandonna pas le champ de bataille à des ennemis si redoutables par leur nombre et par leur fureur. Il défendit sa pièce, donc les philosophes, contre Voltaire lui-même. La correspondance qui s'établit à cette occasion entre le patriarche des philosophes et l'auteur hardi qui avait traduit les philosophes sur la scène, comme on traduit en justice, est curieuse à plus d'un égard et offre plus d'une singularité. Voltaire, si emporté, si irascible, si incapable de garder des ménagements, surtout lorsque des intérêts si chers à son cœur étaient compromis, en garde beaucoup des ménagements avec Palissot. Il y a même une sorte de faiblesse dans ses plaintes. On voit qu'il craint d'armer contre lui, vieux soldat de la philosophie, un jeune athlète plein d'ardeur, de vivacité, de malice et avide de combat. Je n'ai pas pu résister à ce couple, évidemment, vieux soldat, jeune athlète. Le récit de Fellès est tout à fait biaisé. Contrairement à ce qu'il laisse entendre, Palissot et Voltaire étaient en rapport bien avant cette affaire. Le jeune Palissot avait même passé une semaine chez Voltaire aux délices 5 ans plus tôt. Et si Voltaire ne répond qu'avec modération à Palissot, c'est qu'il ne désespère pas en fait de rallier un jour cet admirateur qu'est Palissot. Il ne faut pas négliger le fait non plus que Voltaire est le seul épargné de tous les philosophes dans les deux pièces satiriques de Charles Palissot. L'interprétation que propose Fellès fait donc sourire, car au-delà de la relation de maître à disciple qui existe déjà entre Voltaire et Palissot, Voltaire a bien d'autres raisons, beaucoup plus sérieuses qu'une peur supposée de rester quoi. Non seulement il est épargné par les pièces de Palissot, mais il sait que Palissot est le protégé de Choiseul, ministre le plus puissant de l'époque, dont Voltaire attend beaucoup. Et on voit mal pourquoi Voltaire risquerait de déplaire au puissant Choiseul, qui peut être un allié décisif pour lui, et dont il reçoit par ailleurs des lettres charmantes que Choiseul aime à commencer par cette formule affectueuse et un peu inattendue « ma chère marmotte ». Au reste, peu importe ici le parti pris ou l'éventuelle mauvaise foi de Fellès, c'est ce couple du vieux soldat et du jeune athlète qui m'intéresse. Et j'en viens donc à Voltaire. Voltaire anti-athlète et Voltaire escarmoucheur. Je voudrais montrer très rapidement et en contraste avec la photo de Balzac, la statue de la photo de Balzac pour Rodin, la célèbre statue de Voltaire par Pigalle. Ce n'est pas une statue d'athlète. Ce n'est pas une statue d'athlète, et ce n'est pas évidemment ainsi que se présente Voltaire. Voltaire, polémiste par excellence aux yeux de son siècle et des siècles suivants, Voltaire se présente, celui que Frédéric II appelait le plus querellé et le plus querellant de son siècle, se présente ici comme une sorte de squelette querellant. La statue de Voltaire par Pigalle, qui étonna ses contemporains, est fidèle non seulement à la vérité du corps nu du philosophe, mais elle épouse aussi parfaitement la stratégie de discours adoptée par Voltaire. Afficher sa faiblesse, afficher ses mots corporels, les uns bien réels, les autres imaginaires. Bref, diffuser dans toute l'Europe l'image d'une mort imminente, toujours annoncée et toujours repoussée. Vous connaissez cette manie qu'avait Voltaire de faire part de ses maux et de sa mort prochaine. Je cite simplement un court extrait d'une lettre de 1752. « J'ai apporté à Berlin une vingtaine de dents. Il m'en reste à peu près six. » Et effectivement, comment mordre avec ça? Alors, il faut faire mordre les autres. Ce sera le rôle, par exemple, de Morellet, l'abbé Morellet, qu'on surnommait Morlaix. Morlaix, Morlaix, c'était le cri que Voltaire était censé lui crier. La lettre continue sur le même ton. « J'ai apporté deux yeux, j'en ai perdu presque un. Je n'avais point apporté d'érysipèle, j'en ai gagné un, que je ménage beaucoup, et etc., etc. Je ne suis plus que des os enveloppés de parchemin fripé. » Alors, ce sont... au rebours donc de l'image de l'athlète, ce sont pourtant ces os enveloppés de parchemins fripés qui vont s'avérer le plus redoutable des, non pas escrimeurs, non pas bretteurs, je crois, mais, je reprends le mot à Voltaire, escarmoucheurs. Voltaire n'est pas le duelliste, ce n'est pas non plus le soldat du rang. La figure qu'il crée pour lui-même, et que je trouve très révélatrice, peut-être s'ajoutera-t-elle à la collection d'Antoine, mais je crois qu'elle appartient plutôt au XVIIIe siècle qu'au XIXe siècle, c'est celle de l'escarmoucheur, que Voltaire d'ailleurs relie sans difficulté à celle du valétudinaire que je viens de développer. Voltaire n'est pas un athlète, c'est un chétif, mais ce chétif guerroie pourvu que ce soit sous la forme de l'escarmouche. Lettre à Bernice, je saute beaucoup de choses. Pour moi, chétif, je fais la guerre jusqu'au dernier moment. Janséniste, moliniste, Fréron, Pompignan, à droite, à gauche, et des prédicants, et Jean-Jacques Rousseau, je reçois 100 estocades, j'en rends 200, et je ris. Le « et je ris » est évidemment capital. Il y a un retour de Jean le Bon à la bataille de Poitiers, évidemment, dans cette scène. Père, gardez-vous à droite, père, gardez-vous à gauche. Mener cette guerre virevoltante et rieuse, c'est ce que Voltaire appelle escarmoucher. Le verbe est aussi en usage au XVIIIe siècle. J'ai passé ma vie à escarmoucher, écrit-il à Condorcet. Qu'est-ce que l'escarmouche ? Trois étymologies rapidement et concurrentes et intéressantes dans le dictionnaire de Trévoux. La première, c'est le grec « karmé », qui veut dire littéralement « la joie de combattre ». C'est tout Voltaire, d'où le combat léger. La deuxième, c'est de l'allemand « skirmen » ou « skermen », « escrimer » ou de « escarmie » en vieux français. La troisième, et ici Trévoux cite Ducange, c'est l'italien « scaramuccia », qui... donne l'idée d'un combat léger avec, ajouterez-vous, une nuance de quelque chose de caché parce que la plupart des escarmouches se font par des gens qui sont en embuscade. Ce qu'il faut retenir, je crois, sans arbitrer entre ces étymologies, bien sûr, c'est qu'il s'agit pour Voltaire d'un combat léger entre les lignes. Ça n'est pas un combat solitaire, ça n'est pas le combat du franc-tireur, ça n'est pas non plus, je l'ai dit, celui du soldat de la troupe. C'est l'escarmoucheur qui représente la bonne position pour le combat littéraire aux yeux de Voltaire. Faire la guerre sans l'aimer, si j'ose dire, sans y être ni enclin ni vraiment apte, y prendre plaisir pourtant, la faire en riant contre les adversaires les plus divers, la faire à sa manière, en petite compagnie, sans perdre de vue le gros des troupes philosophiques, bien sûr. Pincé à la rigueur, mais pas jusqu'au sang, il le dit dans une lettre à l'abbé Trublé, épinglé plutôt que sabré, compenser sa faiblesse par sa mobilité. Ainsi se présente à nous, dans cet autoportrait, ce Voltaire éternel escarmoucheur, écrivain querellant. Je crains d'être déjà au bout de mon temps. Je voulais conclure en évoquant Rivarol, comme promis. Je ne ferai qu'évoquer pourquoi Rivarol me semble une étape importante et peut-être une manière pour nous de comprendre la violence de ce qui a lieu entre la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle. Ce qui a lieu, c'est d'abord un changement dans ce milieu littéraire. Et Mercier, cité par Antoine tout à l'heure, est une très bonne source à cet égard. Quand Mercier nous dit, par exemple, 30 écrivains en France, pas davantage, il nous donne une indication précieuse sur le début d'une professionnalisation de l'écrivain. Ces 30 écrivains, pour Mercier, ce sont 30 écrivains qui gagnent leur vie par l'écriture. Au même moment, Rétif fournit un autre exemple. Ces écrivains sont aussi des écrivains plébéiens, au sens où ils n'hésitent pas à se mettre en scène comme, je cite Mercier, une de ses plus jolies phrases, « faisant leurs livres avec leurs jambes ». C'est Mercier qui dit « j'ai fait mon tableau de Paris avec mes jambes », c'est-à-dire en marchant dans Paris. Ainsi fera Rétif. C'est ce milieu que depuis le livre célèbre de Robert Danton, on appelle, de manière un peu impropre à cause de la traduction française, la bohème littéraire qui précède la Révolution. C'est dans ce contexte qu'intervient Rivarol. Et en deux livres, en deux courts ouvrages auxquels je vous renvoie, faute de pouvoir les analyser en détail, ces deux ouvrages, ce sont d'une part « Le petit almanach de nos grands hommes », paru en 1788, qui est une série d'attaques assez amusantes et qui présente cette originalité d'être un pamphlet contre des hommes de lettres totalement inconnus, c'est-à-dire que le comique repose entièrement sur l'anonymat complet, l'obscurité totale des noms que Rivarol s'amuse à accumuler, les accumulant même parfois par paquet, par exemple, Castor et Costard, Briquet et Braquet, un seul article pour deux, Bienvenue et Bien Nourri, de Bordeaux, Montagnac, Montignac et Montigny, trois d'un coup, Les quatre jolis noyés dans la même gloire. Cette rhétorique assez originale pour le pamphlet ou la satire traduit bien un phénomène nouveau, un vertige devant l'anonymat, devant l'invasion des Lilliputiens. C'est ainsi que Rivarol le formule. Rivarol est ici dans son élément, celui du persiflage. Et puis, moins de 2 ans plus tard, 18 mois plus tard, la Révolution a commencé. Rivarol prend parti très violemment contre la Révolution. Il participe à un des journaux les plus violents de 89, les Actes des Apôtres, fondé par Pelletier, et qui s'interrompra en 92 parce qu'il sera fermé et que les rédacteurs s'enfuiront en Angleterre. Et à ce moment-là, en 90, Rivarol donne un second livre, c'est le companion book du premier, mais très différent. Ce second livre qui fait référence et allusion au premier, c'est le petit dictionnaire des grands hommes de la Révolution. Même principe, un dictionnaire alphabétique de noms propres. Mais ici, tous ces noms, ou presque, sont connus. Le persiflage n'est plus de mise. Nous ne sommes plus en présence d'une attaque littéraire. Nous sommes en présence non plus d'un jeu badin dans lequel Rivarol s'incluait lui-même, puisqu'il ajoutait le nom de Rivarol à la liste des homoncules littéraires cités dans son premier almanach. Dans le deuxième livre, ce dictionnaire des grands hommes de la Révolution, grands hommes est évidemment à prendre sarcastiquement, eh bien, c'est ici une sorte de charge amère, frontale, dépourvue de drôlerie, il faut bien le dire, et de toute distance. L'imposture littéraire dont il s'amusait encore en 88, lui apparaît maintenant comme ayant préparé les voies pour la monstruosité de l'imposture politique. Dans ce passage de Rivarol, du persiflage à l'extrême violence et à l'échec littéraire, aussi bien que politique, il faut bien le dire, de son deuxième livre, qui ne peut, selon une formule célèbre, persuader que les gens qui pensent comme lui, je crois qu'on peut voir, au-delà du cas du seul Rivarol, ce qui va être une des nouvelles exigences de la vie littéraire au XIXe siècle, ces attaques directement politiques, frontales, qui vont modifier en profondeur l'imaginaire combattant de l'homme de lettres. Merci.
Bien, merci de cette mise au point sur toutes ces métaphores au XVIIIe siècle, avant la Révolution. On ne va pas avoir beaucoup de temps pour discuter parce qu'on a déjà dépassé l'heure, mais faisons-le quand même. Bon, l'une des grandes questions, c'est en effet celle de la persistance ou de la survivance de la République des Lettres au cours du XIXe siècle. Y a-t-il encore une République des Lettres, au sens où il peut y avoir solidarité par-delà un certain nombre d'oppositions? Ce que j'ai sauté dans ce que je voulais vous faire aujourd'hui, c'était la suite de la camaraderie, où précisément beaucoup insistent sur le fait que les oppositions politiques ne sont pas fondamentales. C'est un topos de la période. Les haines politiques sont au fond de circonstances. Et que c'est Hugo qui dira ça, les vraies haines sont littéraires. Les vraies haines sont littéraires. Les haines politiques sont superficielles et changent, puisque les uns et les autres ont évolué au cours de... ont été dénoncés pour transfuges, etc. Donc, il semble tout de même qu'il y ait quelque chose qui subsiste, et c'est précisément ce qui peut choquer à travers cette notion de camaraderie. La camaraderie, elle dénonce le fait que, malgré les oppositions politiques, il peut y avoir quelque chose... qui lie le milieu littéraire.
Sur ce plan, je crois que non seulement tu as tout à fait raison, mais le thème de la camaraderie, on le trouve déjà au fond au XVIIIe siècle. Là, il y a continuité, oui. Puisque l'accusation, les vers de Molière que tu as cités des femmes savantes, on les cite seconde moitié du XVIIIe pour dénoncer le système de camaraderie, mais le mot n'y est pas, mis en place par les encyclopédistes. Et d'ailleurs, il y a une sorte de... Comment dire ? Quelque chose de réel. C'est-à-dire, c'est le moment où le groupe des encyclopédistes, ou ceux qu'on appelle les philosophes, devient assez puissant pour contrôler les élections académiques en particulier. Et à partir de ce moment-là, ils sont régulièrement dénoncés comme ayant établi un système de courte échelle. Ils se font la courte échelle.
Le... Deuxième point que je voudrais reprendre, mais il va revenir beaucoup dans le cours, c'est ce que tu disais, du duel. Les écrivains du XVIIIe siècle ne se battent pas, les écrivains du XIXe siècle se battent. Et s'il y a, c'est très intéressant parce que ça pose la question de savoir si le duel au XIXe siècle, c'est la thèse d'Arnaud Meyer sur la persistance de l'ancien régime au XIXe siècle, ou au contraire, si le duel, c'est la modernité. Et beaucoup d'écrivains, on le verra quand je ferai un ou deux cours sur le duel, définissent, s'ils défendent le duel, c'est comme un acquis de la démocratie. Le duel est un progrès, puisque tout le monde peut se battre en duel, et c'est pourquoi il ne faut pas le laisser disparaître. Et au fond, le duel des écrivains, des journalistes, se maintient jusqu'à la guerre de 14. C'est la guerre de 14 qui, brutalement... met un terme à cette pratique. Donc, la diffamation, l'injure se résout dans le duel, normalement, dans le milieu littéraire. C'est le code de l'honneur qui l'emporte sur le code pénal. Et alors, ce que tu disais de la prison comme instrument de notoriété, ça se maintient tout au long du XIXe siècle. Et là aussi, je ferai un cours sur la prison, parce que le duel et prison vont ensemble. Alors, ce n'est plus la Bastille, puisque la Bastille a été détruite.
C'est Sainte-Pélagie.
Et la liste des écrivains... Enfin, tout écrivain du XIXe siècle qui est passé par Sainte-Pélagie a fait un récit de Sainte-Pélagie, même pendant qu'il est publié, pendant qu'il est en prison, comme un titre de gloire, de notoriété. Et la prison, beaucoup d'écrivains du XIXe siècle sont passés par la prison. Et la prison les qualifie comme écrivains. Jusqu'à tard dans la Troisième République.
Au XIXe siècle, on est, si je veux dire, doublement qualifié, d'une part parce qu'on a été victime, bien sûr, et aussi parce que les prisons sont extrêmement hiérarchisées et que tout le monde n'a pas droit à la Bastille. Et que être emprisonné à la Bastille, un peu moins bien à Vincennes, c'est quand même mieux que rien, si j'ose dire, est quand même un gage d'abord de qualité, c'est-à-dire qu'on ne vous a pas emmené à Saint-Lazare, qui est infamante, par exemple, d'autres prisons du réseau complexe de la prison parisienne. Et d'autre part, il y a une autre différence, c'est que, au contraire de ce qui se passe au 19e, les récits de la Bastille sont interdits, comme vous le savez, c'est-à-dire sous peine d'y retourner. Il faudra attendre l'extrême fin du siècle pour que deux écrivains en particulier, Linguet, le célèbre avocat Linguet, et Mirabeau, publient des récits de leur détention qui seront des best-sellers extraordinaires et des scandales aussi, des scandales extraordinaires, puisque jusque-là, la prudence... amenait les prisonniers à ne rien dire, puisqu'on ne pouvait pas livrer le moindre élément, le moindre détail sur son séjour dans ce qu'on appelait les prisons du roi.
À Sainte-Pélagie, le pavillon où sont écroués les écrivains est appelé le pavillon des princes. Il montre bien la hiérarchie de la prison. Il faut être passé par le pavillon des princes. Alors évidemment, tu signalais tout cet imaginaire du XIXe siècle nourri des guerres, de la Révolution et de l'Empire. Et alors là, c'est évidemment fondamental dans la représentation de...
Tous les demi-soldes dont tu as parlé, les demi-soldes que tu as évoqués déjà.
Les demi-soldes. Et je pense à l'un des écrivains dont je parlerai, qui est très important dans la construction de cet imaginaire, c'est Armand Carrel, mort en duel, un républicain mort en duel. Tout le monde dit de lui, il est resté lieutenant comme écrivain. Et c'est un drôle de lieutenant, puisqu'il a participé à l'expédition d'Espagne, mais de l'autre côté. De l'autre côté,
dans les brigades internationales.
Déjà les brigades internationales, en ayant quitté, alors après Saint-Cyr. Donc il y a un certain nombre d'écrivains. Bon, de toute façon, les promoteurs de tout cet imaginaire, c'est Courrier qui a fait les guerres de l'Empire, c'est Carrel qui s'est battu en Espagne de l'autre côté. Puis bien sûr, c'est Vigny. C'est évidemment fondamental. Quant au machisme de cette représentation de la vie littéraire, il était évidemment très, très fort. Dans une des prochaines séances, je montrerai quelques caricatures de Daumier sur la vie littéraire, parce qu'il y en a. Bon, je ne cherchais pas une iconographie très riche comme pour le chiffonnier, mais j'ai été très, très surpris de constater que la majorité, mais peut-être pas, il faudrait faire des statistiques plus exactes, des caricatures de Daumier sur la vie littéraire sont contre les femmes écrivains. contre les femmes écrivains. J'en montrerai quelques-unes, mais dans ces charges, il y a les hommes journalistes parfois, mais la femme écrivain est l'objet de la caricature de Daumier.
Je crois qu'on ne trouve pas du tout l'équivalent. Bon, ouais. Évidemment, la caricature est beaucoup moins libre et beaucoup moins développée au XVIIIe siècle, mais dans les écrits non plus. Je pense que là-dessus, Mona Ouzouf, dans un livre déjà ancien sur les femmes au XVIIIe siècle, qui avait été un peu malmenée par les féministes américaines qui trouvaient qu'elle peignait la France du XVIIIe en rose, mais je crois que Mona Ouzouf avait eu tout à fait raison de souligner à quel point, en tout cas dans ce milieu qui était celui de la vie littéraire, les femmes avaient une place réelle. Qui est, à mon avis, en partie perdue. Elles perdent des positions au XIXe siècle, à cet égard.
Oui. Oui, non, c'est pas... Peut-être que Mona Ouzouf l'a peut-être moins reprise sur cette description des salons ou de la vie littéraire que du point de vue de ceux qui élargissaient cette vision... La position de la femme et du rôle et du rôle en général dans la société française.
Mais je crois que c'est important que cette place des femmes a joué un rôle important dans le fait que ne se soient pas développées des fantasmagories ou des représentations, qu'elles soient ludiques, polémiques, etc., qui tournent autour de ce machisme. Mais l'autre aspect, alors là, je suis sûr que tu m'apprendras des choses dans ton cours là-dessus, c'est à quel point le XIXe siècle n'a pas repris des éléments de virilisation, si j'ose dire, qui sont en fait liés à la Révolution française, qui a été un grand moment de... Bah, je veux dire, c'est à partir de la fermeture des clubs de femmes, tout ce qui avait pu être très positif au début de la Révolution se referme. C'est le début d'une révolution qui se donne Hercule comme symbole et qui voit l'homme citoyen et le soldat républicain comme les seuls héros de cette épopée, tandis que les femmes donneront des enfants comme Cornélie, comme les femmes de la République romaine, quoi.
Ce qui veut dire que il faudra que je trouve des matériaux pour faire un cours sur...
Je compte sur toi, la place
des femmes dans cette représentation de la littérature comme sport de combat. Et je dois dire que je ne les ai pas trouvées pour le moment.
Je te donne plusieurs semaines encore.
Sinon, ce que je disais des caricatures de Daumier avec cette surreprésentation des précieuses ridicules. Les femmes savantes et des précieuses ridicules.
On peut se donner rendez-vous, mais pas pour un duel.
Bien, écoute, merci beaucoup de cette excellente soirée.